Marcus Tullius Cicero, De Senectute, ou si l'on préfère, Cicéron, Caton l'Ancien ou Dialogue sur la vieillesse, adressé par Cicéron à Tullius Pomponius Atticus. Si je puis, ô Titus, dissiper ta douleur et soulager l'ennui qui pèse sur ton cœur, quel en sera le prix? Il m'est permis sans doute, Atticus, de vous adresser les mêmes vers qu'adresse à Flaminius notre poète. Homme pauvre de bien, mais riche de vertu. Je suis sûr pourtant que vous n'êtes pas comme Flaminius, jour et nuit tourmenté de soucis et d'alarmes. Je connais trop la modération et l'égalité de votre âme, et ces mœurs douces, cette sagesse que vous avez rapportée d'Athènes avec le surnom d'Atticus. Toutefois, j'ose soupçonner qu'il est des choses dont il vous arrive d'être, ainsi que moi, profondément affligé. Les consolations que cet important sujet pourrait demander seraient les plus difficiles de toutes, et il faut les renvoyer à un autre temps. Je ne veux aujourd'hui que vous parler de la vieillesse. Elle semble déjà nous presser l'un et l'autre, ou du moins elle s'avance vers nous à grands pas. C'est ce fardeau que je veux alléger pour vous comme pour moi, quoique je sois bien persuadé que vous le supportez et le supporterez ainsi que toute chose, avec cette modération qui est dans votre caractère. Mais lorsque j'ai pensé à faire un livre sur la vieillesse, vous êtes présenté à mon esprit comme digne d'un tel présent dont nous jouirons tous les deux en commun. Je vous assure que la composition de cet ouvrage a eu tant de charme pour moi qu'elle a dépouillé la vieillesse à mes yeux de toutes ses peines et me l'a fait voir aussi douce qu'aimable. On ne pourra donc jamais assez louer la philosophie, puisqu'avec elle l'homme peut être heureux à tout âge. Mais nous avons déjà parlé souvent, et nous parlerons souvent encore, de ses bienfaits. Dans l'ouvrage que je vous envoie, il ne s'agit que de la vieillesse. J'ai choisi pour mon principal interlocuteur, non pas Tito, comme a fait Aristan de Chio, de peur que la fable n'ôtât tout crédit à mes discours, mais Caton l'Ancien, pour qu'il leur donnât plus d'autorité. Je suppose Lélius et Scipion chez lui, témoignant leur admiration de la facilité avec laquelle ils supportent la vieillesse, et Caton répondant à leurs questions. Que si vous lui trouvez un esprit un peu plus orné que dans ses propres écrits, vous devez l'attribuer à la littérature grecque, dont il est constant qu'il fit une étude particulière dans sa vieillesse. Mais il suffit, vous allez voir, comment je fais parler Caton. Scipion. Il m'arrive souvent, Caton, d'admirer avec Lélius votre parfaite sagesse en toutes choses. Mais rien n'excite plus notre admiration que de voir la vieillesse sans incommodité pour vous, tandis qu'elle est si à charge à la plupart des vieillards qu'elle les accable, disent-ils, d'un fardeau plus pesant que l'Etna. Caton. Il me semble, Scipion et Lélius, que malgré votre admiration, rien n'est plus simple. Tous les âges sont à charge à ceux qui se trouvent en eux-mêmes aucune ressource pour bien vivre et pour être heureux. Mais ceux, au contraire, qui n'attendent de bien que d'eux-mêmes, ne peuvent regarder comme un mal tout ce qui est une suite inévitable de leur nature. Telle est principalement la vieillesse. Tous désirent d'y arriver, et lorsqu'ils y sont parvenus, ils l'accusent. Tant est grande leur inconséquence et leur folle injustice. Ils disent qu'elle est arrivée plus vite qu'ils n'avaient compté. D'abord, à qui doivent-ils s'en prendre de leurs faux calculs? Et comment la vieillesse a-t-elle succédé plus rapidement à l'adolescence que celle-ci au premier âge? Ensuite, comment la vieillesse leur serait-elle moins à charge à l'âge de 800 ans, par exemple, qu'à celui de 80? Le passé, quelque long qu'il fût, une fois passé, ne saurait adoucir par aucune autre consolation leur vieillesse insensée. Si donc vous voulez absolument admirer ma sagesse, et plutôt ciel qu'elle fût digne de votre admiration et du surnom qu'on m'a donné, Je vous dirai qu'elle consiste à suivre la nature comme un excellent guide et à lui obéir comme à un dieu. Or, il n'est pas vraisemblable qu'après avoir bien rempli tous les autres actes de la vie, la nature, comme un mauvais poète, néglige le dernier. Il a bien fallu toutefois qu'il y eut quelque chose à l'extrémité de la vie, qui, ainsi que les fruits des arbres et les autres productions de la terre, éprouva les effets de la maturité. Le vieillard tombe comme un fruit mûr. C'est ce que le sage supporte avec douceur. Résister à la nature, n'est-ce pas vouloir, comme les géants, faire la guerre aux dieux ? Lélius. Eh bien, Caton, vous pouvez nous donner à tous deux, car je crains pas de parler pour Scipion, la plus agréable preuve d'amitié. Comme nous espérons, que nous désirons même devenir vieux, apprenez-nous d'avance par quels moyens nous pourrons supporter facilement le poids de l'âge avancé. Je le ferai volontiers, Lélius, surtout si cela doit vous être agréable à l'un et à l'autre, comme vous me le dites. Scipion. Oui, Caton, nous voudrions tous deux, si je n'ai pas trop exigé de vous, qu'après avoir, pour ainsi dire, parcouru une longue route que nous devons aussi entreprendre, vous nous fissiez connaître le pays où vous êtes arrivés. Je le ferai, comme je pourrai, mes amis. J'ai entendu souvent les plaintes de ceux de mon âge, car pour me servir du vieux proverbe, qui se ressemble s'assemble. Caius Salinator, Spurius Albinus, tous deux consulaires à peu près de mon âge, se plaignaient sans cesse tantôt de ce qu'ils étaient privés des plaisirs sans lesquels, disaient-ils, la vie n'est rien, tantôt de ce qu'ils étaient dédaignés par ceux dont ils étaient accoutumés à recevoir les hommages. Il me semble qu'ils avaient tort d'en accuser la vieillesse. Si c'était là des peines qu'il fallut lui imputer, je les sentirais aussi bien que tous les vieillards. Or, j'en ai connu beaucoup qui ne faisaient aucune de ces plaintes, qui se voyaient sans cesse détacher les vains plaisirs de la jeunesse et qui n'étaient point délaissés. C'est sur les mœurs et non sur l'âge qu'il faut rejeter la cause de ces sortes de plaintes. Les vieillards modérés, doux, indulgents, passent une vieillesse qui n'est pas sans bonheur, tandis que l'homme d'un caractère difficile et chagrin est malheureux à tout âge. Ce que vous nous dites est bien vrai, Caton. Mais peut-être quelqu'un répondra-t-il que la vieillesse ne nous paraît supportable qu'à cause des richesses, du crédit, des honneurs dont vous jouissez, avantages réservés à bien peu d'hommes. Oui, Lélius, c'est bien quelque chose, mais ce n'est pas tout. Un homme de l'île de Sériphe, dans une dispute qu'il eut un jour avec Thémistocle, lui ayant dit que c'était la gloire de sa patrie et non la sienne qu'il avait illustrée, Thémistocle lui répondit « Bon ne serait peut-être pas fort illustre si j'étais sérifien, mais si tu étais athénien, tu n'en vaudrais pas mieux. » Eh bien, cette réponse revient assez à notre question. La vieillesse ne peut être légère, même pour le sage, dans une grande pauvreté, mais elle est insupportable pour l'insensé, même au sein de l'opulence. Les meilleures armes de la vieillesse, Scipio et Lélius, sont les lettres et la vertu. Cultivées à tout âge, après une vie longue et bien remplie, elles produisent des fruits merveilleux, non seulement parce qu'elles ne nous abandonnent jamais, pas même vers les derniers temps de la vie, ce qui est déjà une grande consolation, mais aussi parce que rien ne contribue plus au bonheur que la conscience d'une vie pure et sans tache et le souvenir de ses bonnes actions. Je m'attachais dans ma jeunesse à Quintus Maximus, celui qui prit Tarente, et je l'aimais, tout vieux qu'il était, comme s'il eût été de mon âge. La gravité en lui était tempérée par l'aménité et la vieillesse n'avait rien changé à ses mœurs. Il est vrai que dans le temps où je m'attachais à lui, il n'était pas encore arrivé à l'extrême vieillesse, mais il en approchait, car je naquis un jour avant son premier consulat, et il était consul pour la quatrième fois, lorsque j'allais, sous lui, faire mes premières armes au siège de Capoue. 5 ans après, je servis à Tarente comme questeur. Je fus ensuite édile et, au bout de 4 ans, préteur. J'exerçais cette magistrature sous le consulat de Tuditadus et de Cethegus, lorsque Maximus, alors très vieux, fit porter la loi Cincia contre les dons et les présents. Quoique très avancé en âge, il faisait la guerre avec toute l'activité d'un jeune homme, et d'un autre côté, par sa patience, il déconcertait la fougueuse jeunesse d'Hannibal. C'est de lui que notre Ennius a si bien dit. Seul il cita pas l'or à mener la victoire. Pour sauver les Romains, il brava leur discours. Sa gloire en est plus belle et s'accroît tous les jours. Et quelle prévoyance, quelle sagesse il montra lorsqu'il reprit Tarente. Je me souviens qu'un jour, en ma présence, Salinator, qui, après avoir perdu cette ville, s'était retiré dans la citadelle, lui dit « C'est à moi, Fabius, que vous êtes redevable d'avoir soumis Tarente. » « Oui, en vérité, lui répondit-il en riant, car si vous ne l'aviez pas perdue, je ne l'aurais jamais reprise. » Mais il ne s'illustra pas moins sous la toche que sous les armes. Consul pour la seconde fois, il résista de toutes ses forces sans le secours de son collègue Spurius Carvilius au tribun du peuple Caius Flaminius, qui, contre l'autorité du Sénat, partageait par tête aux citoyens les territoires de la Gaule et du Picénum. Et lorsqu'il était augure, il ne craignit pas de dire qu'on faisait toujours sous de bons auspices tout ce qui tendait au salut de la République, et sous de mauvais tout ce qui était dirigé contre elle. Je l'ai toujours admiré, mais rien ne m'a paru plus merveilleux que la manière dont il supporta la mort de son fils Marcus, personnage consulaire et déjà illustre. L'éloge qu'il prononça est dans toutes les mains. Lorsque nous le lisons, mais quel est le philosophe que nous aurions lui comparé? Ce fut pas seulement en public et sous les yeux des citoyens qu'il fut grand. Il le fut aussi dans l'intérieur de sa maison. Quelle conversation, quelle maxime, quelle connaissance de l'Antiquité! Comme il possédait la science des augures! Il avait aussi beaucoup de littérature pour un Romain. Il se rappelait parfaitement et toutes les guerres domestiques et toutes les guerres étrangères. Que j'étais avide de l'entendre, il semblait que je devinais ce qui arriva, qu'après sa mort je n'aurais personne auprès de qui je puisse m'instruire. Et pourquoi vous ai-je tant parlé de Maximus? Pour vous faire comprendre qu'il n'est pas permis de dire qu'une telle vieillesse a été misérable. Tous les hommes, il est vrai, ne peuvent pas être des Scipions, des Fabius, ni occuper leur mémoire de villes soumises, de combats sur terre et sur mer, de victoires et de triomphes, mais à une vie tranquille, pure, honorable, succède aussi une douce et paisible vieillesse. Telle on nous apprend que fut celle de Platon, qui écrivit jusqu'à l'âge de 81 ans et où il mourut. Telle fut celle d'Isocrate, qui atteste lui-même qu'il composa à l'âge de 94 ans son Panathénaïque et qui vécut encore 5 ans. Son maître Gorgias, le Léontin, alla jusqu'à la 107e année sans abandonner ni ses études ni ses travaux. Quelqu'un lui demandant un jour comment il ne s'ennuyait pas de vivre aussi longtemps, « Je n'ai aucune raison, dit-il, de me plaindre de la vieillesse. » Belle réponse et bien digne d'un homme éclairé. Il n'y a que les insensés qui rejettent sur la vieillesse leurs défauts et leurs vices. On ne pouvait faire ce reproche à Ennius dont je parlais tout à l'heure. Tel le noble coursier qui triompha souvent aux plaines d'Olympie, coule dans le repos les restes de sa vie. Il compare sa vieillesse à celle d'un noble coursier, souvent victorieux. Vous pouvez très bien vous souvenir de lui, puisqu'il n'y avait que 18 ans qu'il était mort lorsque les consuls actuels, Titus Flaminius et Marcus Aecilius, furent élus. Scipion était consul et Philippe l'était pour la seconde fois quand Ennius mourut. Et moi-même, à l'âge de 65 ans, j'avais encore une assez forte voix et une assez bonne poitrine pour faire passer la loi Voconia. Ennius, à l'âge de 70 ans où il mourut, supportait si bien de choses qui sont réputées les plus grands fardeaux de la vie, la pauvreté et la vieillesse, qui semblait en faire son bonheur. Lorsque j'y réfléchis, je trouve qu'il y a quatre causes qui font paraître la vieillesse misérable. La première est, dit-on, qu'elle nous éloigne des affaires. La seconde, qu'elle affaiblit le corps. La troisième, qu'elle prive de presque tous les plaisirs. La quatrième, qu'elle est voisine de la mort. Essayons, si vous voulez, d'apprécier toutes ces causes l'une après l'autre et de voir si on a raison de se plaindre. La vieillesse éloigne des affaires. Mais de quelles affaires? Est-ce de celles qui ne peuvent se faire que dans la force de l'âge? Mais n'en est-il point qui soient propres aux vieillards et que la tête dirige, quelque faible que soit le corps? Fabius Maximus ne faisait donc rien, non plus que Paul-Émile, votre père, Scipion, et le beau-père de mon fils, cet excellent citoyen. Et les autres vieillards, les Fabricius, les Curius, les Coroncanius, quand ils soutenaient la République de leur conseil et de leur traité, ils faisaient donc rien? Appius Claudius était vieux et de plus aveugle. Cependant, lorsque l'opinion du Sénat inclinait à faire la paix et à conclure un traité avec Pyrrhus, il n'hésita point à dire ce qu'Ennius exprime ainsi. Qu'entends-je, quelle erreur, quelle fatalité a fait devant un roi plier votre fierté? Le reste est de la même énergie. Vous connaissez le poème. Le discours même d'Appius nous est resté. Et il le prononça 17 ans après son second consulat, qu'un intervalle de 10 ans séparait du premier, avant lequel il avait été censeur. D'où l'on voit qu'il était très âgé du temps de la guerre de Pyrrhus. Et c'est aussi ce que nous apprenons de nos pères. Ceux-là donc ne réfléchissent pas, qui nient que la vieillesse soit propre aux affaires. Et ils ressemblent à celui qui dirait que dans un vaisseau, le pilote ne fait rien parce que le gouvernail en main, il se tient tranquille à la poupe, tandis que les uns grimpent en haut des mâts, que les autres manœuvrent sur les ponts et que d'autres vident la sentine. Les occupations du vieillard ne sont pas celles du jeune homme. Non, mais elles sont plus douces et plus importantes. Certes, ce n'est ni par la force, ni par la vitesse, ni par l'agilité que se traitent les grandes affaires. C'est bien plutôt par la prudence, par l'autorité, par les bons avis. Toutes choses qui, loin de manquer au vieillard, se trouvent en eux à un degré supérieur. Moi-même, qui est fait comme soldat, tribun, ambassadeur, consul, tous les genres de guerre. Me trouvez-vous maintenant inutile parce que je n'en fais plus? J'indique au Sénat celle qu'il doit faire. Il y a bien des années, par exemple, que je veux qu'on prenne les armes contre Carthage, qui dès longtemps couvre contre nous de mauvais cossins, et que je ne cesserai de craindre que quand je la verrai détruite. Puisse une telle palme vous être réservée par les dieux immortels, ô Scipion. Puissiez-vous terminer glorieusement ce que votre aïeul a si bien commencé. Voici la 31e année qui s'écoule depuis sa mort, mais sa mémoire vivra dans tous les âges. Il mourut l'année qui précéda ma censure, 9 ans après mon consulat, sous lequel il fut créé consul pour la seconde fois. Aurait-il donc eu, s'il était parvenu à l'âge de 100 ans, à se plaindre de la vieillesse? Il n'aurait pu ni courir, ni sauter, ni lancer de loin le javelot, ni combattre de près avec l'épée, mais il aurait servi la République par sa prudence, par ses conseils, par sa raison. Si telles n'étaient point les qualités des vieillards, nos ancêtres eussent-ils appelé Sénat, le Conseil suprême? À Lacédémone, Les premiers magistrats sont nommés les vieillards, guirlantes, comme ils le sont en effet. Que si vous voulez prendre connaissance de l'histoire des autres peuples, vous trouverez que les plus grandes républiques ont été ruinées par les jeunes gens et soutenues ou rétablies par les vieillards. Quel revers a sitôt détruit votre puissance? À cette question, comme dans la pièce du poète Névius, entre autres réponses, on fera surtout celle-ci. Des jeunes orateurs accusaient la prudence. En effet, la témérité appartient surtout au jeune âge, comme la prudence à la vieillesse. Mais, me dira-t-on, la mémoire s'affaiblit. Je le crois, si on ne l'exerce pas ou si elle est naturellement ingrate. Thémistocle avait retenu les noms de tous ses concitoyens. Pensez-vous qu'en arrivant en âge, il lui soit arrivé souvent de saluer Lysimaque pour Aristide? Moi-même, je ne connais pas seulement chacun de nos concitoyens aujourd'hui vivants. Je sais encore quel était son père, son aïeul, et je ne crains pas, en lisant leurs épitaphes, d'en perdre, comme on dit, la mémoire. Cela ne fait, au contraire, que me rappeler leurs souvenirs. Je n'ai jamais ouï dire qu'entre tous les vieillards, un seul ait oublié l'endroit où il avait caché son trésor. Ils se sont toujours souvenus des objets, de leurs soins, des échéances, de leurs dettes, des noms de leurs débiteurs, de ceux de leurs créanciers. Combien de jurisconsultes, de pontifes, d'augures, de philosophes, qui dans un grand âge ont conservé une excellente mémoire. Le génie n'abandonne pas les vieillards, pourvu qu'à leur tour, ils n'abandonnent ni leurs études ni leurs travaux. Et cela n'est pas seulement vrai des hommes publics, ce l'est encore des simples particuliers. Sophocle fit des tragédies jusqu'à l'extrême vieillesse. Ses études paraissant lui faire négliger ses intérêts domestiques, il fut cité en justice par ses fils, qui demandaient que l'administration lui en fût interdite pour cause d'incapacité, comme il se pratique chez nous à l'égard des pères qui sont mauvais économes. On dit qu'alors ce vieillard récita au juge une nouvelle pièce à laquelle il travaillait encore, Édipe à Colonne, et qu'il leur demanda si ce poème leur semblait être d'un homme tombé en enfance. À l'instant même, il fut absous par la sentence des juges. Est-ce donc Sophocle que la vieillesse a forcé d'interrompre ses études? Sera-ce Homère, Hésiode, Simonide, Stésichore, ou bien Isocrate, Gorgias, dont j'ai déjà parlé, ou les princes des philosophes, Pythagore, Démocrite, Platon, Xénocrate, ou après cela Zénon, Cléante, ou enfin Diogène le stoïcien, que vous avez vu à Rome? Les études de tous ces grands hommes n'ont-elles pas duré autant que leur vie? Mais quoi, sans parler de ces études divines, je puis citer de nos Romains agriculteurs, mes amis et mes voisins, qui ne souffrent presque jamais qu'on fasse sans eux aucun travail dans leurs champs, et ne veulent pas qu'on s'occupe sans eux d'ensemencer les terres, de cueillir et d'enfermer les fruits. Cette prévoyance du moine n'a rien qui doive étonner, car il n'est personne de si vieux qui ne croit pouvoir vivre encore un an. Mais ils se livrent à des travaux dont ils savent qu'ils ne profiteront pas. Tel est le vieillard de Statius dans les cimes Phèbes. Ses arrière-neveux lui devront cet ombrage. Aussi, demandez à un laboureur, quelque vieux qu'il soit, pour qui il plante. Il n'hésitera point à répondre, c'est pour les dieux immortels qui ont voulu non seulement que je reçusse ces biens de mes ancêtres, mais aussi que je les transmisse à mes descendants. Ce que le poète dit de ce vieillard soigneux de l'avenir est bien plus sage que ce qu'il dit ailleurs. La somme de nos maux croît avec nos années. Cette raison suffit, c'est assez pour gémir. C'est même trop, vieillesse, et je dois te haïr. Mais on peut dire aussi que la somme de nos plaisirs croît avec nos années. Et quant aux maux et aux souffrances, la jeunesse n'en a-t-elle point sa part ? Voici quelque chose que je pardonne encore moins à Cecilius. Le pire, à mon avis, des maux de la vieillesse, c'est de s'apercevoir que l'on déplaît sans cesse. Mais les vieillards, au contraire, sont plutôt aimables que déplaisants, et si les plus sages d'entre eux aiment la société des jeunes gens d'un bon naturel, si la vieillesse est d'autant plus légère pour eux qu'ils sont honorés et chéris de la jeunesse, les jeunes gens, de leur côté, profitent avec plaisir des maximes des vieillards qui les conduisent à la pratique des vertus. Et je sens que je ne vous suis pas moins agréable que vous ne me l'êtes vous-même. Vous voyez, du reste, que la vieillesse n'est ni paresseuse ni languissante, qu'elle est même laborieuse, faisant ou méditant toujours quelque chose et ne perdant jamais de vue les occupations de toute la vie. Que dis-je ? Les vieillards n'acquièrent-ils pas aussi de nouvelles connaissances, comme Solon, qui se glorifiait de vieillir en apprenant chaque jour quelque chose de nouveau, comme j'ai fait moi-même en étudiant sur mes vieux jours les lettres grecques. Et certes, je m'y suis livré avec l'avidité d'un homme qui cherche à étancher une soif ardente, impatient que j'étais de connaître les traits que je vous cite aujourd'hui pour exemple. Quand j'ai su que Socrate s'exerçait à jouer de la lyre, j'aurais voulu en vérité le faire aussi, à l'imitation des anciens. Mais du moins, je n'ai rien négligé pour apprendre sa langue. La faiblesse du corps est le second reproche qu'on fait à la vieillesse. Mais de bonne foi, je ne désire pas plus aujourd'hui d'avoir les forces d'un jeune homme que je désirais dans ma jeunesse d'avoir celles d'un taureau ou d'un éléphant. User de ce qu'on a et agir en tout selon ses forces, telle est la règle du sage. Est-il en effet rien de plus méprisable que ce mot de Milon de Crotone ? Étant un jour dans sa vieillesse à voir les athlètes s'exercer, on rapporte qu'après avoir regardé ses bras, il s'écria en pleurant : ceux-ci, hélas, sont déjà morts. Homme frivole, mais c'est toi-même qui n'es plus. Car ce n'est pas toi qui as été fameux, ce sont tes reins et tes muscles qui l'ont été. On ne cite rien de tel de Sextius Elius, de Tiberius Coruncanius, bien plus anciens encore, de Publius Crassus, qui est plus près de nous. Ils furent tous, aux yeux de leurs concitoyens, comme les oracles de la jurisprudence, et l'on admira leur sagesse jusqu'au dernier terme de leur vie. Pour un orateur, je craindrais que la vieillesse n'affaiblisse ses moyens. Ils ne sont pas seulement dans son génie, ils sont aussi dans ses forces et ses poumons. Il y a cependant des vieillards qui, je ne sais comment, conservent encore tout l'éclat de leur voix. Je ne l'ai pas perdu, et vous savez pourtant le nombre de mes années. Toutefois, la voix du vieillard est calme, grave, imposante. Et lorsqu'il est disert, sa diction douce et pure le fait écouter avec plaisir. Si on ne peut en donner d'exemple, on peut du moins y instruire Scipio et Lallius. Et quel plus agréable tableau que celui d'un vieillard instruisant ses jeunes disciples. Ne laissons-nous pas même à la vieillesse les forces nécessaires pour élever et instruire les jeunes gens et les former à la pratique de leurs devoirs? Et qu'y a-t-il de plus noble que de telles fonctions? Pour moi, je regardais comme heureux les deux Scipions, Cneius et Publius, et vos deux aïeux, Lucius Emilius et Publius l'Africain, d'être toujours entourés de la jeune noblesse. Oui, quelque faible, quelque languissante que soit un homme qui donne d'utiles leçons, je ne le croirai jamais malheureux. Encore, cet affaiblissement provient plus souvent des vices de la jeunesse qui ne l'effet de la vieillesse. Une jeunesse déréglée et intempérante ne transmet à la vieillesse qu'un corps épuisé. Cyrus, dans le discours que Xénophon lui fait tenir en mourant, dans un âge très avancé, nie qu'il se soit jamais senti moins de force dans la vieillesse que dans l'adolescence. Je me souviens d'avoir vu dans mon enfance Lucius Metellus, le même qui, ayant été fait grand pontife 4 ans après son second consulat, exerça cette magistrature sacrée pendant 22 ans. Et il avait si bien conservé ses forces qu'il ne regrettait point son adolescence. Je n'ai pas besoin de parler de moi-même, quoique ce soit assez la coutume des vieillards et qu'on le pardonne à notre âge. Voyez-vous, comme dans Homère, Nestor vante souvent ses propres vertus. Il avait déjà vécu 3 âges d'homme, et certes, il n'avait point à craindre qu'en disant des choses vraies à sa louange, il ne parût ou trop grand en parleur ou trop vain. En effet, comme dit Homère, de sa bouche sortaient des discours plus doux que le miel, et pour ce doux langage, il n'avait besoin d'aucune force de corps. Cependant, le chef des Grecs ne forme pas le vœu d'avoir 10 capitaines comme Ajax, mais d'en avoir 10 comme Nestor. Et ce vœu rempli, il ne doute point de la prochaine destruction de Troie. Mais, pour revenir à moi-même, je suis dans ma 84e année, et je voudrais bien pouvoir me glorifier de la même chose dont se vantait Cyrus. Mais, du moins, je puis dire que, sans avoir les mêmes forces que j'avais lorsque j'étais soldat, et ensuite questeur dans la guerre punique, ou consul en Espagne, ou lorsque, 4 ans après, en qualité de tribun militaire, je combattis aux Thermopyles sous le consul Marcus Silius Glabrion, la vieillesse, cependant, ne m'a ni abattu ni épuisé. Le barreau ne regrette point mes forces, non plus que la tribune aux harangues, non plus que mes amis, mes clients, mes hôtes. Je n'ai jamais goûté ce proverbe si ancien et si vanté, qui avertit que pour être longtemps vieux, il faut le devenir de bonne heure. Pour moi, j'aimerais mieux l'être moins longtemps que de vieillir avant la vieillesse. Aussi personne n'a encore voulu me parler que je n'ai pu le recevoir. Mais j'ai moins de force qu'aucun de vous. Rien de plus vrai. Mais vous, en avez-vous tout autant que le centurion Titus Pontius? Et en valez-vous pour cela moins que lui? Qu'un homme n'ait que des forces médiocres, s'il en tire tout le parti possible, il n'aura certainement pas un grand désir d'en avoir davantage. On rapporte que Milon, aux Jeux Olympiques, parcourut le stade portant un bœuf en vie sur ses épaules. Eh bien, aimeriez-vous mieux avoir une telle force de corps que la force de génie de Pythagore? Enfin, les forces sont un bien dont il faut user tant qu'on l'a et qu'on ne doit pas regretter quand on ne l'a plus, à moins qu'il ne faille regretter l'enfance dans l'adolescence et celle-ci dans l'âge mûr. Le cours de notre vie est fixé et la voie de la nature est une et simple. Chaque âge a son caractère particulier. C'est ainsi que la nature a donné la faiblesse à l'enfance, la fierté à la jeunesse, la gravité à l'âge viril, la caducité à la vieillesse. Le fruit est mûr, il doit tomber. Je crois cependant, Scipion, que vous n'ignorez pas ce que fait Massinissa, l'hôte de votre maison, aujourd'hui qu'il est âgé de 90 ans. Quand il commence un voyage à pied, il le finit sans monter du tout à cheval, et lorsqu'il entreprend à cheval, il n'en descend plus. Ni la pluie ni le froid ne peuvent jamais lui faire couvrir la tête. Il a le corps sain, dispos, et il remplit fidèlement tous les devoirs et toutes les fonctions de la royauté. L'exercice et la tempérance peuvent donc conserver au vieillard quelque chose de son ancienne vigueur. La vieillesse n'a plus de force, eh bien, on n'exige pas qu'elle en ait. Ainsi, nos lois et nos usages dispensent notre âge des emplois où les forces sont nécessaires. Loin donc d'être tenus de faire ce que nous ne pourrions pas, nous ne le sommes pas même de faire tout ce que nous pourrions. Mais, dira-t-on, il y a des vieillards si infirmes qui sont incapables de remplir le moindre devoir, la moindre fonction de la vie. Mais certes, oui, mais ce n'est point la faute de la vieillesse, mais l'effet ordinaire de la mauvaise santé. Quelles ne furent pas les infirmités du fils de Publius l'Africain qui vous adopta? Combien sa santé était faible, ou plutôt nulle? Sans cela, il eût été comme son père, l'ornement de Rome. Car à sa grandeur d'âme, il joignait encore de plus grandes lumières. Qu'y a-t-il donc d'étonnant de voir certains vieillards sujets à des infirmités, lorsque les jeunes gens eux-mêmes n'en sont pas exempts. Il faut, mes amis, se raidir contre la vieillesse, s'appliquer sans relâche à corriger les torts qu'elle peut avoir et la combattre comme on combat la maladie. Nous devons ménager notre santé, user d'un exercice modéré, ne prendre de nourriture que ce qu'il en faut pour réparer nos forces, non pour les accabler. Et nos soins ne doivent pas se borner au corps seulement. Nous devons nourrir encore mieux l'esprit et le cœur. Car si on les entretient comme la lampe en lui fournissant de l'huile, eux aussi s'éteignent dans la vieillesse. Il y a même cette différence entre l'esprit et le corps, que celui-ci s'appesantit par le grand exercice, tandis que celui-là en reçoit une vigueur nouvelle. Cécilius entend par ce mot de « sot vieillard de comédie » des vieillards crédules, oublieux, inconséquents. Défauts moins propres à la vieillesse qu'aux vieillards, dont la vie n'est plus qu'engourdissement et sommeil. Comme la pétulance et le libertinage, qui appartiennent plutôt à la jeunesse qu'à la vieillesse, ne se rencontrent pas dans tous les jeunes gens, mais seulement dans ceux qui n'ont point de mœurs. Ainsi, cette faiblesse de tête qu'on a coutume d'appeler enfance est le partage non pas de tous les vieillards, mais de ceux qui n'ont point de caractère. Appius, vieux et aveugle, gouvernait très bien 4 fils déjà formés, 5 filles, une maison considérable et une nombreuse clientèle. Son esprit était tendu comme un arc, loin de languir et de succomber sous le poids de la vieillesse. Il ne maintenait pas seulement son autorité, il conservait son empire sur tous les siens. Il était craint de ses esclaves, révéré de ses enfants et chéri de tous. La discipline et les mœurs anciennes étaient en vigueur dans sa maison. La vieillesse est toujours honorée lorsqu'elle sait se défendre elle-même, qu'elle maintient ses droits et que, loin d'être assujettie à personne, elle exerce son autorité jusqu'au dernier soupir sur tous ceux qui l'entourent. Comme j'estime le jeune homme en qui l'on remarque quelque chose du vieillard, j'aime le vieillard en qui l'on voit quelques traces du jeune homme. C'est ainsi que le corps pourra vieillir, mais non l'esprit. Je travaille maintenant à mon 7e livre des Origines. Je recueille tous les monuments de l'Antiquité. Je donne la dernière main aux harangues que j'ai prononcées dans les causes célèbres que j'ai défendues. Je fais un traité du droit des augures, du droit des pontifes, du droit civil. Je cultive beaucoup les lettres grecques et, à la manière des pythagoriciens, pour exercer ma mémoire, je rappelle le soir tout ce que j'ai fait, dit ou entendu dans la journée. Voilà mes exercices, mes études. Je tiens mon esprit toujours occupé, toujours en haleine, et je ne songe pas à regretter les forces du corps. Je sers mes amis, je viens souvent au Sénat, j'y apporte les choses mûries par le temps et la réflexion, et je les soutiens non par les forces du corps, mais par celles de la pensée. Si je ne pouvais faire tout cela, je me plairais à m'occuper sur mon lit de ce que je ne pourrais exécuter. Mais grâce à ma vie passée, je puis tout faire. L'homme vieillit ainsi peu à peu, sans s'en apercevoir, et au lieu de tomber tout à coup, il ne s'éteint qu'à force de vivre. Voici maintenant le 3e reproche qu'on fait à la vieillesse. Elle est privée des plaisirs. Oh, belle prérogative de notre âge, si en effet il nous a franchis de ce qu'il y a de plus vicieux dans la jeunesse. Écoutez donc, ô bons jeunes gens, un ancien discours d'Archytas de Tarente, un des premiers et des plus illustres personnages de son temps. Ce discours me fut rapporté dans ma jeunesse lorsque j'étais à Tarente avec Quintus Maximus. Il n'y a pas dans la nature, disait-il, de poison plus funeste que la volupté. C'est au plaisir des sens que l'homme se porte avec le plus d'impétuosité et de frénésie. De là les projets sacrilèges contre la patrie, le renversement des États, les intelligences clandestines avec les ennemis. Point de forfait, point de grand crime auquel ne pousse cette funeste passion. Ce n'est qu'à ces amorces qu'on doit les incestes, les adultères et tous les désordres de ce genre. Et la raison de cette faculté divine, ce don par excellence que l'homme a reçu de la nature ou d'un dieu, n'a pas d'ennemi plus dangereux que la volupté. Plus de modération, plus de frein quand la passion domine. Et l'on peut même dire que dans l'empire de la volupté, il n'y a de place pour aucune vertu. L'Archytas voulait que, pour se rendre cette vérité plus sensible, on se représentât un homme dans l'accès du plaisir le plus vif que le corps puisse goûter. Il pensait qu'alors il ne serait douté pour personne que tant que cet homme serait dans une telle ivresse, l'action de sa pensée, de son esprit, de sa raison ne fut totalement suspendue. Qu'ainsi rien n'était plus détestable, plus pernicieux que la volupté, qui, lorsqu'elle était excessive et qu'elle avait quelque durée, ne pouvait manquer d'éteindre toute lumière de l'esprit. Voilà quel fut le discours d'Archytas, conversant avec le samnite Caius Pontius, père de celui qui triompha des consuls Spurius Postumius et Titus Veturius à la journée des fourches caudines. Il nous fut rapporté par notre hôte Néarque de Tarente, qui avait toujours conservé l'amitié du peuple romain et qui tenait ses paroles de quelques vieillards. Et Néarque ajoutait que l'Athénien Platon y fut présent. Et je trouve en effet que celui-ci vint à Tarente sous le consulat de Lucius Camillus et d'Appius Claudius. Mais pourquoi tous les détails où je viens d'entrer? Pour vous faire sentir que si la raison et la sagesse ne peuvent toujours nous garantir des pièges de la volupté, nous avons de grandes actions de grâce à rendre à la vieillesse qui nous ôte le goût de plaisirs si funestes. En effet, la volupté, ennemie de la raison, corrompt le jugement, offusque les yeux de l'esprit et ne peut s'allier avec la vertu. C'est bien en vérité, malgré moi, que j'exclus du Sénat, 7 ans après son consulat, Lucius Flaminius, frère de l'illustre Titus Flamininus. Mais j'ai cru devoir faire un exemple contre l'ivresse des passions. Lorsqu'il était proconsul dans la Gaule, une courtisane, au milieu d'un repas, obtint de lui, par ses prières, qu'il fît devant elle frapper de la hache un criminel condamné à mort. Son délit resta d'abord impuni, parce que Titus, son frère, à qui je succédai immédiatement, était alors censeur. Mais Flaccus et moi, nous ne pûmes passer sous silence une faiblesse si honteuse et si dépravée, dont l'ignominie s'en verrait jaillir jusque sur les faisceaux consulaires. J'ai souvent ouï dire à des vieillards, qui dans leur enfance l'avaient appris de ceux de leur temps, que Fabricius avait coutume de raconter, et toujours avec étonnement, que lorsqu'il était ambassadeur auprès de Pyrrhus, le Thessalien Cinéas disait qu'il y avait à Athènes un homme faisant profession de sagesse, qui prétendait que la volupté devait être le but de toutes nos actions. Ils ajoutaient que Marcus Curius et Tiberius Coroncanius, entendant ce récit, faisaient des vœux pour que les Samnites et Pyrrhus lui-même fussent imbus d'une pareille doctrine, persuadés que plus ils seraient livrés au plaisir, plus il serait facile de les vaincre. Ce même Curius avait vécu avec Publius Decius, qui s'était dévoué pour la République dans son 4e consulat, 5 ans avant celui de Curius. Fabricius et Coroncanius l'avaient aussi connu, et ils jugeaient tous, soit d'après l'expérience de leur vie entière, soit d'après ce noble dénouement, qu'il existait quelque chose de beau, de sublime par sa nature, qu'on aimait pour soi-même, et à quoi toute belle âme rendait hommage en méprisant la volupté. J'ai voulu prouver, en m'étendant sur ce point, que loin de faire aucun reproche à la vieillesse, on doit la louer au contraire, de ne désirer passionnément aucune espèce de plaisir. Elle est privée des grands repas, elle ne peut ni manger beaucoup ni boire fréquemment. Eh bien, plus d'ivresse, plus d'indigestion, plus d'insomnie. Toutefois, s'il faut donner quelque chose au plaisir, dont les attraits sont si puissants et que le divin Platon nomme l'appât du mal, parce que les hommes s'y laissent prendre comme des poissons à l'hameçon, quoique les grands festins ne soient pas faits pour la vieillesse, elle peut néanmoins se plaire à de modestes repas. Je me souviens d'avoir vu souvent dans mon enfance revenir de souper le vieux Caius Duilius, fils de M, qui gagna la première bataille navale contre les Carthaginois. Il prenait plaisir à se faire reconduire à la clarté des flambeaux et au son des flûtes, quoiqu'il n'y eût pas d'exemple de pareille chose pour un particulier, tant sa gloire lui donnait de privilèges. Mais pourquoi parler des autres ? J'en reviendrai encore à moi. D'abord, j'ai toujours eu des compagnons de table. Ces compagnons, ces compagnies, furent établis pendant que j'étais questeur lorsqu'on introduisit à Rome le culte de la mère des dieux. Je me régalais donc avec mes compagnons. Notre table était sobre, mais nous avions cette ardeur du jeune âge. Tout se tempère à mesure qu'on vieillit. Ce qui m'attirait le plus dans ces festins n'était pas le plaisir de manger et de boire. C'était celui de me trouver avec mes amis et de converser avec eux. Nos ancêtres ont eu raison d'appeler une réunion d'amis à table d'un mot qui exprime l'action de vivre ensemble, parce que la table est en effet d'un des liens de la société. Les Grecs expriment moins heureusement la même chose par des mots qui ne rappellent que le boire et le manger, comme s'ils le considéraient dans les festins que ce qui en fait la moindre partie. Quant à moi, j'aime ces banquets prolongés pour le plaisir de la conversation, et ce n'est pas seulement avec les hommes de mon âge, qui restent en bien petit nombre, mais c'est aussi avec ceux du vôtre, et surtout avec vous. Et j'ai grande obligation à la vieillesse, qui n'a fait que me rendre plus avide de conversation et plus sobre sur le reste. Si pourtant on trouve quelque charme aux jouissances même de la table, pour ne pas paraître avoir déclaré une guerre impitoyable à tous les plaisirs, dont le goût n'est que trop naturel peut-être, je dirais que je ne comprends pas pourquoi les vieillards ne seraient pas propres à goûter celui-ci. J'aime beaucoup, j'en conviens, et les royautés de table établies par nos ancêtres, et le discours prononcé, le verre en main, par le roi du festin, à la manière de nos pères. J'aime aussi, comme Socrate dans le banquet de Xénophon, à boire dans ces petits verres qui ne font qu'arroser le gosier, devant le feu ou au soleil en hiver et au frais en été. C'est ainsi que j'ai coutume de vivre à ma campagne de Sabine. Je suis tous les jours en festin avec mes voisins, et tout en discourant sur divers sujets, nous prolongeons ces assemblées aussi avant dans la nuit que nous pouvons. Les plaisirs, dira-t-on, sont moins piquants dans la vieillesse. Je le crois, mais aussi nous n'avons pas les mêmes désirs. Or, on ne regrette point ce qu'on ne désire plus. Voici une belle réponse de Sophocle à quelqu'un qui lui demandait s'il jouissait encore des plaisirs de l'amour. « Oh, que les dieux veuillent m'en préserver !» répondit-il. « Je m'y suis soustrait de bon cœur, comme aux joues d'un maître sauvage et furieux. Pour ceux qui sont avides de ces choses-là, il peut être fâcheux et pénible d'en être privé, mais quand la satiété est venue, la privation est préférable à la jouissance. » Si l'on peut appeler privation l'absence d'une chose qu'on ne désire point. Je dirais donc qu'en cela, point désirer vaut mieux que jouir. Que si, dans le bel âge, on se livre plus volontiers à ses plaisirs, je dirais encore, comme je l'ai déjà fait, que ces plaisirs sont bien peu de choses, et que la vieillesse, pour en jouir moins, n'en est pas entièrement privée. Lorsque l'acteur Ambrogius Turpio se fait entendre, ceux qui se trouvent placés au premier rang ont sans doute le plus de plaisir. Mais ceux-là en ont aussi qui sont au dernier. De même, l'adolescence qui se trouve plus à portée des plaisirs en jouit peut-être mieux. Mais les vieillards qui en sont plus éloignés en jouissent encore suffisamment. Et de quel prix n'est-il pas, après avoir, pour ainsi dire, fait son temps au service de l'amour, de l'ambition, de l'intrigue, des rivalités et enfin de toutes les passions, d'être à soi et, comme on dit, de vivre avec soi-même? Si de plus on a quelque objet d'étude qui serve d'aliment à l'esprit, mais qu'y a-t-il de plus agréable que l'oisive vieillesse? Caius Gallus, l'ami de votre père, Scipion, ne l'avons-nous pas vu mourir en mesurant en quelque sorte le ciel et la terre? Combien de fois le jour ne se prit-il pas attaché sur l'ouvrage entrepris le soir et la nuit sur des calculs commencés le matin? Qu'il avait de plaisir à nous prédire longtemps d'avance les éclipses de soleil et de lune. Et que dirais-je des études moins profondes, mais qui demandent pourtant du génie? Combien Évius ne se complaisait-il pas dans sa guerre punique, plaudant son Truculentus et son Pseudolus? J'ai vu Livius, qui, après avoir donné, déjà avancé en âge, une pièce de théâtre sous le consulat de Contant et de Tuditanus, 6 ans avant ma naissance, vécut encore jusqu'au temps de ma jeunesse. Vous parlerai-je des études de Publius Licinius Crassus dans le droit civil et dans le droit pontifical? Ou bien de celle de Publius Scipion, celui qui vient d'être fait grand pontife? Tous ces hommes, nous les avons vus dans leur vieillesse, se livrer encore avec ardeur à leurs anciens travaux. Marcus Cetecus, Cennius a si bien appelé l'âme de la persuasion. Ne le voyais-je pas, même sur ses vieux jours, s'exercer dans l'art de bien parler? Les festins, les jeux et les courtisanes offrent-ils des plaisirs comparables à de tels plaisirs? Voilà les jouissances de l'étude. Dans les bons esprits, ce goût croît avec les années. Aussi est-ce une belle parole de Solon que celle que nous avons déjà citée, qu'il vieillissait en apprenant toujours. Est-il quelque volupté qui égale ses plaisirs de l'esprit ?